les extrêmes de la psychanalyse. On pourrait croire que la psychanalyse se réduit à gérer les névroses courantes, mais sa théorie, comme sa pratique, ont une ambition beaucoup plus forte, un peu oubliée. Elle se confronte à des questions philosophiques et politiques, telles que le désir révolutionnaire, le nouage des identités ou la terreur des corps. Certaines situations l'obligent à se transformer, à modifier ses cadres d'interprétation. Un patient qui va mourir, une personne qui ne se reconnaît pas dans son sexe, une autre dont l'agressivité est incontrôlable, toutes ces singularités peuvent devenir des cas. Ils remettent en chantier la psychanalyse qui se découvre autrement par ses extrêmes. Autour de moi, Michel Nérault, psychiatre et psychanalyste, François Pommier, psychiatre et psychanalyste, professeur de psychopathologie à l'université de Paris-Ouest, Nanterre, Sabine Procoris, psychanalyste et philosophe, Nicole Thévenin, psychanalyste et philosophe, maître de conférences en sciences politiques à l'université de Paris 8. Alors, dans votre livre, François Pommier, L'extrême en psychanalyse, vous évoquez ces situations précisément qui remettent un peu en cause le cadre de l'analyse des personnes désocialisées, qui sont atteintes de toxicomanie grave, des suicidants, des sidéens. Alors, bon, est-ce que d'une certaine manière, voilà, la psychanalyse est amenée à changer ses modes d'écoute par rapport à ces situations que vous appelez extrêmes?
Ce qu'il faut peut-être d'abord dire, c'est que la manière dont j'aborde l'extrême est à différencier de l'exceptionnel, tout d'abord, puisque ce sont des extrêmes, des situations extrêmes que l'on peut rencontrer dans la vie courante, puisqu'il s'agit d'états de détresse, d'angoisse majeure.
Extrême mais ordinaire.
Extrême et ordinaire, de la psychopathologie de la vie quotidienne, pour faire tout de suite une référence à Freud. Extrême qu'on peut rencontrer donc à l'extérieur, mais aussi à l'intérieur même du cabinet, du psychanalyste, du psychothérapeute, qui est amené, c'est ce que j'essaie de montrer dans mon livre, à constituer sa propre méthode et à, en quelque sorte, à accueillir, sans pour autant être dans l'accompagnement, puisque je parle essentiellement de situations de psychothérapie et de psychanalyse, essayer de se laisser déformer, informer par son patient pour pouvoir lui-même se retrouver à un moment donné dans une situation extrême comme celle qu'a pu connaître son patient.
Vous évoquez deux types d'extrêmes, je ne sais pas si le dire comme ça, mais à la fois intensif ou extensif. Vous parlez de l'intensité d'un trouble intérieur du sujet dans son rapport à lui-même, une sorte de, par exemple, de trouble de somatique invalidant, lorsqu'on n'est plus capable de faire quelque chose avec son corps, ou alors un sujet qui sort de lui-même, hors de lui, dans sa relation à l'autre. Donc ce sont deux extrémités. Est-ce que vous pourriez évoquer cette espèce d'ambivalence?
Alors, il y a en fait, dans les situations extrêmes dont je parle, des patients en effet, par exemple, un certain nombre de toxicomanes, dans des situations de toxicomanie graves qui vont mettre souvent très longtemps d'ailleurs à sortir de ces situations, mais aussi des phénomènes d'impulsivité importants, donc en fait violence intérieure, violence extérieure également. La maladie grave fait partie de remet souvent en cause le psychanalyste, le psychothérapeute en raison de la place de la mort qui apparaît très vite dans le cadre de la cure.
Alors sur l'extériorité à soi, vous soulevez une sorte de paradoxe. Enfin, j'ai trouvé vraiment intéressant cette idée que c'est dans l'excès que certains sujets peuvent se retrouver, se recentrer, se rassembler. Est-ce que vous pourriez nous expliquer cette idée surprenante?
Mais j'aime bien l'idée que j'ai empruntée à Pierre Fédida lorsqu'il parle de la dépression et quand il fait la différence entre la dépression en elle-même et la dépressivité, c'est-à-dire au contraire la capacité pour le sujet de restaurer sa capacité dépressive. Il y a là, j'essaye de travailler d'une manière un tout petit peu paradoxale là, par rapport à au sujet qui est hors de lui-même, pour peut-être essayait de reprendre du point de vue du psychanalyste le fait qu'il se trouve hors de lui-même. C'est-à-dire qu'à un moment donné dans la cure, en somme, l'analyste est lui-même hors de lui-même comme
oui.
a été le
oui,
patient.
Oui, d'accord. Mais alors, bon, la dépression, c'est pas forcément le cas des situations extrêmes. Là, vous faites référence à Felida, d'accord, mais c'est la dépression qu'on doit assumer. Mais là, vous évoquez quand même des cas beaucoup plus, je sais pas moi, beaucoup plus dramatiques.
Oui, mais dans le cas, par exemple, de patients suicidants,
oui.
de détresse extrême, on est alors, confronté très vite.
On se retrouve plus soi-même dans un passage à l'acte de ce type.
Vous voulez
parler. C'est pas surprenant. Parce que c'est le fait de dire, voilà, dites, certains sujets peuvent se retrouver dans l'excès, c'est-à-dire bon, dans la sortie ou dans un geste excessif. C'est une manière de se retrouver. C'est ça. Enfin, moi, je suis pas analyste. Hein, j'étais surpris par cette formule.
C'est une manière c'est une façon d'être. De même, mais qu'on est amené à faire bouger dans le temps, évidemment.
Oui, oui,
hein,
oui,
et
oui.
C'est le rôle, évidemment, du psychanalyste que d'essayer de faire bouger cet état.
Alors, Sabine Procoris, vous qui êtes aussi philosophe, psychanalyste et philosophe, comment vous entendez cette idée d'être hors de soi, aussi de se retrouver soi, hors de soi ou dans l'excès, puisque dans ce livre qui recueille une vingtaine, plein d'articles sur une vingtaine d'années, hein, la psychanalyse excentrée, que vous publié au PUF, il est question précisément de l'altération psychanalytique, cette idée qu'on doit se désorienter aussi dans la pensée. Hein, vous faites ici une référence bien sûr à Kant.
Oui.
Et, alors, bon, comment vous entendez aussi cette possibilité à la fois du point de vue de l'écoute psychanalytique, mais du point de vue aussi de la lecture philosophique, de sortir de soi et de se retrouver hors de soi ou en s'altérant?
Bah, tout dépend ce qu'on appelle soi, évidemment.
Oui. Hein.
Il me semble de toute façon que l'expérience analytique est une expérience extrême au sens où elle déplace sans arrêt nos manières, ce qui s'est enquisté en nous. Finalement, elle s'y heurte, bien entendu, et c'est valable, je pense, d'une façon à des emplacements différents, mais selon une logique identique pour l'analysant et pour l'analyste. C'est pour ça que la deuxième règle fondamentale de l'analyse, après la règle de l'association libre couplée à l'écoute également flottante, c'est l'analyse de l'analyste.
Mmh.
Bon, ça, c'est la première chose. Et effectivement, bon, finalement, je serais assez en phase avec ce que dit François Pommier sur le fait que cet extrême, ce n'est pas l'exceptionnel, c'est effectivement l'expérience ordinaire à laquelle est confronté tout être humain mortel, finalement. Donc, ne serait-ce que n'importe quelle expérience de deuil confronte à quelque chose qui est de l'ordre de l'extrême. Mmh. Et cet extrême prendrait pour moi la forme, enfin le terme, si vous voulez, il est un petit peu problématique pour moi parce que vu comment il est investi dans le langage ordinaire, tout de suite on pense à des situations exceptionnelles. Justement, c'est pour ça que François Pommier avait tout à fait raison de distinguer ça. Mais je pense que l'extrême, il est aussi ce qui est le plus proche. Le texte de Freud qui s'appelle L'inquiétante étrangeté décrit très bien cette expérience totalement troublante, que ce qui est presque pareil, mais pas tout à fait, ouvre des abîmes d'inquiétude. Et je dirais que c'est peut-être quelque chose qui peut se relier à l'expérience, enfin c'est un des fils conducteurs de mon travail de plus en plus, à l'expérience au fond du langage ordinaire, qui est le langage dans lequel s'effectue une psychanalyse, et qui est aussi, je crois, le langage à partir duquel la théorisation freudienne, qui n'est pas un système philosophique justement, œuvre, cette expérience-là, elle est une expérience, finalement, quand on la conduit jusqu'à, finalement, quand on la dénude, on pourrait dire, elle conduit jusqu'à quelque chose qui a trait vraiment à l'angoisse. Et je pense que Lacan parle bien dans le séminaire sur l'angoisse, quand il dit que le signifiant, c'est-à-dire, les mots, d'une certaine manière, engendrent un monde, un réseau de traces, et que le vertige naît du fait que c'est un monde dans lequel il est possible de se tromper. Donc de s'égarer. Quand Guilhem aussi parle de ça, il dit que l'erreur humaine ne fait qu'un avec l'errance parce que l'homme ne sait pas où se mettre. Donc c'est cette sorte d'incertitude, et mon dernier texte s'appelle « Travail pour l'incertain », et il est à partir du cinéma de Kubrick, qui est un cinéma, on pourrait dire, de l'extrême, hein, « Orange mécanique » ou bon, tous les films de Kubrick, touche cette question-là, mais au sens où elle nous offre une sorte de perception, au fond, de notre condition d'être humain dans le monde. Dans le rapport aux autres et à nous-mêmes, finalement.
Alors, sur cette question du hors de soi, de l'altération, Michel Nérault, je dirais que vous êtes bien placé pour parler de ces questions-là, parce que vous avez écrit un livre célèbre sur le transfert, vous travaillez depuis longtemps sur l'identification, et dans votre dernier livre, qui est écrit avec d'écrivain aussi, de grande liberté, vous abordez de manière différente un peu ce rôle par exemple le rôle du visage humain, ce rôle de l'identification, cette manière qu'on a d'être soi ou de trouver un soi par identification à différentes figures. Est-ce que vous pourriez nous dire quel a été aussi votre projet dans l'écriture de ce livre paru aux éditions de l'Olivier?
Oui, les extrêmes de la psychanalyse en général me paraissent être à la fois à l'intérieur d'elle-même, à l'intérieur de la psychanalyse et en dehors d'elle-même. Bon, il faut dire une chose d'abord, c'est que les catégorisations nosographiques, les maladies, les névroses, les psychoses, les perversions, les délires, etc., ont plutôt un rôle d'uniformisation. Deux névroses obsessionnelles se ressemblent entre elles plus qu'elles ne diffèrent. Deux délires paranoïaques se ressemblent énormément. Même les délires toxiques, engendrés par une substance toxique, se ressemblent. Alors que les personnalités qui les supportent, qui les subissent, peuvent être particulièrement différentes. Alors, en ce sens, je ne suis pas un spécialiste de l'exception. Et celle-ci, quand celle-ci me tombe dessus, je la reçois avec un étonnement chaque fois renouvelé. Je n'y suis pas particulièrement prêt.
Mais vous êtes attentif à la singularité.
Oui, aucune analyse ne ressemble à une autre. Il y a autant de personnalités distinctes que de visages différents. Rien n'est prévisible en analyse, sauf quelquefois le passé. Jamais l'avenir. Bon. Il faut rappeler que l'identification traverse les catégories nosographiques. Soit qu'elle intéresse le développement de l'enfant en général, soit qu'elle concerne la disponibilité que chacun d'entre nous rencontre de s'identifier à quelqu'un d'autre, à quelque chose, à quelque idée, quelquefois.
Oui. Vous distinguez, Michel Nérault, identification diachronique et synchronique. Alors, est-ce que vous pourriez nous expliquer ça, notamment le fait qu'il y a des identifications dans le temps, dans la durée, et puis à un moment donné, dans une stase de temps?
L'identification diachronique, c'est celle du développement de l'enfant. Celle sur laquelle Melanie Klein ou Winnicott se sont particulièrement penchés, avec un grossissement énorme d'ailleurs, et qui exige qu'on en décrive le développement progressif, si vous voulez, comment s'édifie, se superpose, se noue quelquefois les identifications dans la formation d'une personnalité. L'identification synchronique, c'est celle dont chacun dispose pour s'identifier à ce qu'il entend, à ce qu'il voit, à ce qu'il écoute, à ce qu'il comprend. C'est se comprendre quelqu'un, regarder un spectacle par exemple, c'est comprendre quelqu'un, c'est s'identifier d'une certaine manière. Mmh. On ne peut donc pas mettre sur le même plan cette identification édifiante et cette identification possible.
Est-ce qu'on peut dire que cette identification nous met à l'extrémité de nous-mêmes, non pas forcément hors de nous-mêmes, mais nous projette en quelque sorte dans une altération, mais en même temps une altération qui est aussi nécessaire à la formation d'un soi?
Elles sont nécessairement, le livre s'intitule Alter Ego, sont nécessairement faites de quelqu'un d'autre. Il faut rappeler quand même la définition de Freud en 1921, qui est particulièrement importante, c'est que l'identification est la première forme d'attachement à une autre personne avant tout lien d'objet sexuel. C'est une interprétation tout à fait d'envergure exceptionnelle, parce que d'habitude, on prête, et en particulier les plus distingués esthètes, prêtent à la psychanalyse le seul rôle de ne s'occuper que de la sexualité. Mais alors Freud, là-dessus, est péremptoire, quelque chose avant la sexualité proprement dite intervient, qui est l'identification sur le mode de l'être.
Oui.
Alors que la sexualité peut se concevoir sur le mode de l'avoir, de l'être aussi.
Oui.
Mais d'abord, l'identification comme être.
Et de manière imaginaire.
Imaginaire, oui. Si l'on entend par l'imaginaire au sens lacanien, c'est-à-dire de l'ordre de l'imaginaire.
Oui, alors vous forgez une notion qui est l'identème, la plus petite unité significative d'une identification, dites-vous. Alors, oui. qu'est-ce que ça permet de penser, l'identème, dans justement cette manière d'être soi, hors de soi, d'être un autre que soi-même, tout en étant soi-même, de se porter à l'extrémité de soi-même, cette unité minimale en quelque sorte, voilà, qu'est-ce qu'elle vous permet de concevoir dans les processus d'identification ?
Oui. Essayons d'abord de saisir ce que peut être l'identème. Malraux m'a mis sur la voie, et c'est Maurice Schumann qui rapporte cela. On demandait à Malraux quelle était sa place vis-à-vis du général de Gaulle. Il occupait la place de ministre de la Culture, comme vous savez. Et il a répondu « Je suis comme le chat qui disait « Je suis le chat qui fait le chat chez Mallarmé ». Bon, ce qui voulait dire que chez Mallarmé, les choses n'étaient pas les choses. Le fameux aboli bibelot d'inanité sonore que j'ai vu d'ailleurs, qui est une pendule comme on voit sur les cheminées, qui veut rien dire. Hein. Tous les objets chez Mallarmé n'occupaient pas exactement leur place. L'identème, c'est quelque chose qui est à côté de sa place, qui n'est pas tout à fait soi-même. J'en donne d'autres exemples, si vous voulez. On peut prendre l'apparition du spectre dans Hamlet, qui est un identème dans la mesure où il exige une reconnaissance au sens actif du terme, oui. Une identification oui. Au sens actif du terme.
Je suis frappé dans vos approches que, par exemple, François Pommier va prendre des cas très, je dirais, ordinaires, même si ce sont des cas quelquefois, quand même, malgré tout, un petit peu excessifs, enfin, par rapport à la vie ordinaire, et que vous, Michel Nérault, vous prenez toujours des références culturelles, dans votre livre aussi, hein. Là, on vous a entendu, c'est Mallarmé, c'est Malraux, c'est Hamlet. C'est une manière, je trouve, intéressante dans l'écriture psychanalytique, alors je sais pas, l'écriture des cas, ou, mais votre matériau pédagogique, je ne sais pas si on peut le dire comme ça, mais pour faire entendre un concept, c'est l'univers de la culture. Oui. Je suis frappé de voir des différents régimes d'écriture entre
oui,
vous.
Oui, vous avez raison. Il faut rappeler une chose, c'est la responsabilité qu'a un psychanalyste de ne pas raconter la vie des gens.
Oui.
Et donc, la psychanalyse est un contrat qui pourrait se formuler de cette façon, sincérité absolue contre discrétion absolue. De ce fait, je parle plutôt de Malraux que de mes patients, et c'est pour des raisons de discrétion absolue. Seul Freud a réussi à parler de lui-même et de ses patients sans gêner personne. Encore qu'il leur ait demandé à ses patients l'autorisation de le faire.
Mais sans parler forcément d'un nouveau patient.
C'est ma façon d'être aussi.
Bien sûr, mais c'est ce qui donne aussi la qualité de votre livre et de votre écriture. Et sans parler forcément de vos cas, ou de vos patients plutôt, qui ne sont pas forcément des cas. Mais est-ce que vous pourriez nous expliquer voilà ce que c'est que dans la vie ordinaire, qu'une manière de s'identifier à partir d'un identème pour un être ordinaire
Pour un être ordinaire, je vous dirais ce qui m'est venu à l'esprit quand j'ai pensé à l'identème. Plutôt. Ce qui m'est venu à l'esprit, c'est un passage de Julien Green, d'ailleurs ce qui fait que confirmer mes références littéraires, Julien Green, revu par Mélanie Klein, où tout d'un coup, Fabien Espécel, le héros de Si j'étais vous, voit ses propres vêtements posé sur une chaise avec sa veste, son pantalon, ses affaires, ses guenilles, et qui sont absolument vides. Il a un état de dépression épouvantable en se voyant sous ses oripeaux. Première vision de l'identème, ce costume vide, n'est-ce pas ? Et le deuxième, c'est un fait récent, politique celui-là, c'est lorsque les vêtements de François Mitterrand ont été vendus aux enchères. Le chapeau d'un côté, l'écharpe de l'autre, le manteau. Je me suis dit, ça, c'est un identème pour les oiseaux. C'est un épouvantail. Poème anglais qui dit cela, The Scarecrow, je crois que ça s'appelle, que les épouvantails, dans leur naïveté, veulent toujours avoir une apparence humaine. Eh ben c'est ça l'identème.
D'accord.
Il n'est pas recommandé de s'y
de s'en revêtir.
De s'en revêtir.
Bon, alors Nicole Edith Thévenin, dans Le Prince et l'Hypocrite que vous publiez aux éditions Syleps, d'une certaine manière, on est à l'extrême de la psychanalyse, mais en même temps peut-être au cœur de la psychanalyse, son projet aussi philosophique. Je disais en introduction un peu que voilà, la psychanalyse ne se contente pas de gérer des névroses ordinaires, mais qu'elle a aussi une ambition sociale, politique, philosophique. Et vous la rappelez avec beaucoup de force dans votre dans votre livre, en disant que voilà, que la psychanalyse en quelque sorte ne peut pas rester indifférente à ce que Freud a appelé le malaise dans la civilisation. Et est-ce que votre livre n'est pas une manière aussi de rappeler en quelque sorte cette radicalité de la psychanalyse?
Oui, tout à fait. Et ça rejoint tout ce que nos interlocuteurs, vos interlocuteurs disent ce matin, c'est-à-dire la question de l'extrême et de l'excès. Alors moi, j'ai pris le contre-pied, c'est-à-dire je n'ai pas fait de l'excès, de l'extrême, je ne l'ai pas analysé du côté pathologique, mais du côté de ce qui frappe la condition humaine. C'est-à-dire ce qui spécifie la condition humaine, c'est en effet l'excès, l'extrême. Et c'est ce que Lacan disait en disant, en écrivant, je ne sais plus dans quel séminaire ou en parlant, disant il y a quelque chose dans l'homme qui le pousse à sortir des limites de la vie. Et ça, déjà, Freud est très attentif à ça, d'ailleurs, dans la question la pulsion sexuelle, c'est-à-dire la question des pulsions, mais il y revient d'autant plus, avec beaucoup plus de force, lorsqu'il découvre la pulsion de mort, hein, les formes de la pulsion de mort. C'est-à-dire, là, il y revient avec beaucoup de passion et en même temps d'étonnement, parce que c'est là où il va se heurter à la plus grande résistance chez les psychanalystes. C'est-à-dire, il y a dans l'homme quelque chose, en effet, qui le pousse, et il y a une attraction, dit-il, de la mort. Alors, ça fait toujours peur, même aux analystes, et peut-être plus chez les analystes, parce que c'est vrai qu'on a tendance, chez les psychanalystes, à gommer un peu la question de la pulsion de mort, pour la question de la pulsion de vie, en disant, bon, mais on répare, hein, on répare les excès, on répare l'extrême. Mais en fait, on ne répare pas l'extrême. Et moi, je suis très touchée par ce qui se dit sur la question de l'extrême autour de cette table, parce que c'est mettre le doigt sur quelque chose qu'on refoule énormément dans notre civilisation aujourd'hui, que ça soit en politique, mais dans la psychanalyse et dans la manière dont on veut absolument faire du soin social, en rabattant toute la question de l'excès, de cette force de la pulsion de mort liée à la pulsion sexuelle, qui est de porter les hommes au-delà justement de ce qui serait de l'ordre du normal. Et donc qui vient toujours contester la normalisation. Alors ça se voit en psychanalyse, mais aussi d'abord dans la psychanalyse. Et Freud, si vous voulez, ce que j'ai voulu montrer, c'est que la question de l'extrême que Freud pose à l'intérieur de la psychanalyse, il la pose en découvrant bien sûr la pulsion de mort, la question du narcissisme, etc., mais aussi en découvrant en même temps ce qui se passe au niveau de la civilisation. C'est la manière dont s'articule la pulsion de mort psychique et la pulsion de mort au niveau du malaise de la civilisation qui l'interroge. Il dit, mais là, il y a quelque chose, en effet, qui revient comme une répétition, qui est de l'ordre, en effet, de l'extrême. Et pour moi, ce que j'ai voulu montrer dans mon livre, c'est qu'il ne s'agit pas de normaliser cet extrême, mais plutôt de l'articuler autour d'un lien vivant. Et c'est ce qu'on fait dans l'analyse.
Alors, dites-moi, si je simplifie, mais d'après mes souvenirs, quand même, de ce texte de Freud, il est bien question, effectivement, de la pulsion de mort à laquelle on doit donner, en quelque sorte, une issue dans une civilisation, sans quoi, effectivement, ce refoulement va finir par faire craquer, va craquer. Et il m'avait semblé, quand même, que ce qu'il mettait en valeur, c'est la nécessité de la sublimation et de trouver, en quelque sorte, des activités sociales, à la fois pacifiques et guerrières, comme le sport, par exemple. On voit bien aujourd'hui un match de football, par exemple, où en quelque sorte on peut exprimer cette pulsion de mort, mais en même temps, voilà, l'art de la civilisation, c'est de la faire servir à un lien social, quoi. C'est-à-dire, il y a la pulsion de mort lorsque deux équipes s'affrontent et veulent annihiler l'équipe adverse, et le public de la même façon. Mais en même temps, voilà, ils sont rassemblés autour d'un stade et en principe, ça doit bien marcher. Donc, est-ce qu'il n'y a pas, je caricature sans doute, mais dites-moi si je simplifie à l'outrance, en disant que quand même l'objectif, c'est bien d'arriver à socialiser et à gérer plus qu'à véritablement rendre compte d'une transgression ou d'une radicalisation d'une contestation hein, à partir de la pulsion de mort.
Oui, enfin, la question de la sublimation, oui. Pour Freud, elle est liée aussi à la question, bon, moi, ce que j'essaye de montrer dans mon livre, c'est la question politique. Oui. Hein, que la question politique, au-delà du lien social, pose la question de ce qui se passe dans le réel, en tant que réel, c'est-à-dire, et là, Freud, d'ailleurs, comme Marx, montre que ce qui se passe dans le réel, au niveau social, en tout cas, au niveau historique, ce sont des rapports de force, c'est la cruauté, hein, ce que dont parle Derrida. Mais c'est vrai qu'il s'agit en effet, ça c'est pour rejoindre ce que vous dites, la question de la sublimation, c'est comment lier pulsion de mort et pulsion de vie.
Oui.
Mais la lier toujours autour de la question de la libération. Oui. De l'individu, de toute forme d'oppression ou d'exploitation.
Mais ce que je veux dire, c'est qu'on a l'impression quand même que Freud n'est pas forcément intéressé par la question de la justice. C'est-à-dire qu'il faut gérer, en quelque sorte, pour une société, cette présence de la pulsion de mort. C'est plus une question... Mais vous allez sûrement me dire que je me trompe complètement, mais c'est plus une question, j'ai l'impression que c'est plus une question de gestion que de véritablement rendre justice à cette nécessité aussi de faire parler.
Non, c'est pas une question de gestion, c'est une question de création, d'œuvre personnelle. C'est-à-dire que, par exemple, dans la cure analytique, et là je suis tout à fait d'accord avec Sabine, c'est, avec tout ce qui a été dit autour de cette table, c'est que dans la cure psychanalytique, par exemple, d'où vient le conflit et l'angoisse, et c'est que je dirais pour caricaturer, mais c'est vrai, c'est que le sujet est pris dans la mort. Et que la cure psychanalytique, il est enserré là-dedans et qu'il n'arrive pas à élaborer cette question de la mort. Hein, et que dans le processus analytique, il me semble qu'il s'agit de desserrer les liens où le sujet est pris dans la mort pour faire une place pour la mort. Et c'est ça qui importe à Freud en disant, mais dans la civilisation, on expulse la mort et la pulsion de mort. C'est ça le réel auquel l'individu doit se confronter.
D'accord.
Et c'est ça l'extrême. Et c'est autour de ça que doit se faire la création en tant que sublimation. C'est-à-dire, on doit faire œuvre personnelle et œuvre civilisationnelle. Et la question politique est au cœur de ça.
D'accord. François Pommier, alors, je voudrais vous entendre sur la pulsion de mort, puisque dans votre livre, vous évoquez ces aspects dynamiques.
Oui, alors, moi, je suis très sensible à ce que vient de dire Nicole Thévenin, justement, à propos de l'articulation entre pulsion de vie et pulsion de mort. Parce que c'est là que se joue toute la question, c'est comment est-ce que dans une cure, on va pouvoir à la fois... laisser la place à la pulsion de mort, la reconnaître, essayer de la reconnaître un peu comme on reconnaît une ombre, hein, parce que c'est Françoise Dolto disait que c'est quand elle commençait à s'endormir dans une cure qu'elle se disait qu'il y avait de la pulsion de mort qui passait. Donc la question, c'est d'abord d'essayer de la reconnaître et ensuite à partir de là,
parce que vous pouvez nous revenir là-dessus quand même.
Oui, à un moment donné, tout à coup, au moment où le patient parle, souvent face à face d'ailleurs, moi ça m'est arrivé, on se met tout à coup à somnoler.
En face à face, c'est agréable pour le patient.
Et Françoise Dolto disait qu'elle s'endormait d'ailleurs elle-même avec certains patients psychotiques.
Il n'y a pas de patients qui sont partis à ce moment-là.
Non.
Parfois,
ils s'en aperçoivent, ils vous le disent d'ailleurs. Ils vous disent ce que je vous dis ne vous intéresse pas. Mais en fait, très souvent, surtout chez des patients d'ailleurs gravement malades, je pense à ceux-là, à certains moments, apparaît comme ça quelque chose qu'on repère comme de la pulsion de mort ou de la pulsion de déliaison. Finalement, le terme qu'employait Green est assez intéressant pour ça. Hein, quelque chose se délie et notre rôle va consister à partir de là essayer de retrouver de la vie, car on n'est pas avec là je pense en particulier par exemple à des malades du sida puisque j'en ai beaucoup suivi, notre rôle n'est pas d'accompagner à la mort mais au contraire de laisser aux patients la possibilité de vivre le plus longtemps possible et si cette pulsion de mort apparaît de pouvoir repérer l'articulation qu'il va y avoir entre pulsion de mort et pulsion de vie. Donc je suis très sensible à ce qu'a dit Nicole Thévenin à ce propos.
Michel Nérault, vous intervenez aussi sur cette question, pas forcément la pulsion de mort, mais du destin, de l'agressivité, notamment dans l'identification.
Oui, l'agressivité a des sources orales, et ce n'est pas une affaire tranquille que l'agressivité. En particulier, l'identification adhésive, qui est une manière parasitaire d'exister.
Qu'est-ce que c'est, alors,
l'identification adhésive, c'est une manière de pomper l'air des gens qui nous entourent, de son psychanalyste en particulier et de sa famille en général, et d'en absorber la substance en sorte qu'il ne reste rien. Ce qui fait que l'instinct de mort, il est plutôt ailleurs qu'à l'intérieur de l'identification adhésive. C'est une abominable manière d'exister. Mais il y a des moyens peut-être de relier, comme vous le demandiez tout à l'heure, l'instinct de mort et l'instinct de vie, qui sont la réconciliation dans le visage maternel, si je peux en parler un moment, de ces deux pulsions antagonistes. Le visage maternel est la première, est le premier des théâtres. C'est le théâtre sur lequel l'enfant déchiffre les signes, mais c'est en même temps un théâtre qui le déchiffre. Et donc, Winnicott a très bien insisté sur le fait que quand l'enfant regarde sa mère, il s'y voit. S'il ne s'y voit pas, c'est-à-dire si elle est distraite, si elle pense à autre chose, si elle le berce d'une façon mécanique, ou qu'elle pense au film qu'elle a vu la veille et pas à lui, tout d'un coup, il ne s'y voit plus, il s'effondre.
Bon, vous allez culpabiliser les mères, là.
Oui, c'est ce que j'essaie de faire. Je m'y emploie depuis plusieurs années et ça marche. Elles finissent par se rendre compte qu'il faudrait qu'elles y mettent du leur. Donc, les mères ont un pouvoir immense qui est celui de relier précisément des forces de vie et des forces de mort, des forces de destruction et des forces qui sont au départ absolument liées.
Et les pères ?
Et les pères interviennent quand ils le peuvent et quand ils le veulent aussi, soit pour démarquer de façon symbolique leur présence et incarner l'interdiction édipienne, qui est quand même un des fondements de la psychanalyse, soit pour eux aussi guider un enfant vers des étapes de sublimation qui exigent un accompagnement homosexuel, paternel et directif sans être écrasant.
Je me dis comme ça, je ne vois pas réagir Sabine Procoris, mais que vous ne devez pas complètement adhérer de question d'adhésive à cette répartition des rôles.
Oui, je
ne
suis peut-être pas suffisamment adhésive.
Non.
Bah, c'est-à-dire que ce serait très long de déployer tous les enjeux de ça. Si on reprend la question de la pulsion de mort dont on parlait tout à l'heure, c'est vrai que c'est une notion. Ben, c'est une notion, quoi. Donc, comme toutes les notions, c'est une façon de décrire certains mouvements. Ça ne désigne pas une entité ou une réalité en soi. C'est-à-dire, en tant que façon de décrire, ça peut être pratique. Mais finalement, si on reprend, par exemple, cette question de l'identification primaire et du premier processus d'identification, effectivement, comme le disait Michel Nérault, il y a une dimension orale, c'est-à-dire qu'il y a quelque chose de l'ordre du cannibalisme. Donc quelque chose qui détruit. Et Freud le dit d'une façon très charmante, finalement, puisqu'il écrit à un moment donné dans le texte sur l'identification que le cannibale aime ses ennemis jusqu'à les dévorer, et il ne peut manger quelqu'un qu'il n'aime pas d'une manière ou d'une autre. Donc, pulsion de mort, pulsion de vie, c'est très intriqué, finalement, tout ça. Bon, on pourrait mettre aussi la pulsion de mort du côté de ce que décrit, par exemple, alors je ne parle pas de Freud, mais mettons Erving Goffman, quand il dit que la vie sociale s'acharne constamment et de mille manières à congeler l'intelligence qui nous permet de l'appréhender. Mais l'intelligence qui nous permet de l'appréhender, c'est aussi quelque chose qui peut être une force de déliaison et qui, menée d'une certaine manière, peut être totalement, effectivement, destructeur. Donc c'est une question de fond, mouvement. Je dirais même pas d'équilibre, parce que même quand on utilise le terme d'équilibre, c'est toujours un équilibre, un déséquilibre qui se rétablit sans cesse. Mais dès que quelque chose se fige, là je crois qu'on pourrait être sinon dans la pulsion de mort, du moins dans le triomphe de quelque chose qui serait finalement, disons, la mort, quoi. Donc, en ce qui concerne la question des je crois que j'ai pas très envie d'entrer dans le débat,
d'accord,
parce que ce serait presque un autre débat et assez long.
On en parlera peut-être tout à l'heure.
Mais il me semble que pulsion de mort, pulsion de vie, je veux dire, Freud, par exemple, dans le texte sur l'éphémère destinée que je cite dans mon dernier texte, il est extrêmement étonnant, Freud, puisqu'il écrit, c'est un texte écrit en 1915, en pleine guerre, et il écrit une chose telle que nous reconstruirons tout ce que la guerre a détruit. Alors que Freud, c'est quand même un pessimiste. Dans Malaise dans la civilisation, il ne cesse de dire que de toute façon, tout est fichu, quoi. On pourrait dire ça comme ça. Néanmoins, il s'agirait de tenir ensemble de forces antagonistes ou de. Enfin, quelque chose des. Comme ce que dit Pascal, qu'il n'admire point l'extrême magnanimité s'il n'admire en même temps l'excès de la vertu opposée et que le jeu humain, c'est de tenir ensemble, mais en mouvement toujours, pas de façon fixe, des mouvements qui peuvent être perçus dans les rapports humains comme parfaitement contradictoires.
Nicole Edith Thévenin, je crois que vous étiez un petit peu en désaccord sur cette...
Oui, parce que pour moi, en effet, pour Freud, la pulsion de mort existe en tant que telle. Et lorsqu'il parle de la liaison et de la déliaison des pulsions, c'est pour bien montrer qu'il y a une possibilité de déliaison entre pulsion de mort et pulsion de vie. Et il le dit dans Malaise et il y revient et il dit je suis très étonné que les psychanalystes eux-mêmes ne soient pas d'accord avec ça et ne le voient pas. Il y a une œuvre de la pulsion de mort qui peut très bien travailler pour son propre compte. Et qui, bon, et bien sûr, ça a ouvert du côté de l'analyse des psychoses, de l'analyse, bon, de ce que, du négativiste tel que André Green, par exemple, analyse. Je vais pas rentrer dans ce débat. Mais je défends le fait qu'en effet, il y a, c'est pas une question d'essence, c'est que la pulsion de mort vient, je pense, de la question du signifiant. Mais ça, il faudrait voir du côté de Lacan, là, qui, bon. Et je voudrais aussi intervenir sur autre chose, c'est que la pulsion de mort n'a pas que des effets négatif, c'est ça que j'ai voulu montrer.
Nicole Edith Thévenin, justement, j'ai l'impression que ça revient à votre distinction entre la violence qui détruit et la violence qui restaure.
Voilà, c'est ça. C'est-à-dire qu'il y a une nécessité de la pulsion de mort dans la question de la subversion. C'est-à-dire que pour se délier justement une force de déliaison nécessaire, hein, il le dit d'ailleurs dans la négation, il y a dans la pulsion de mort une force de déliaison et une possibilité du coup du jugement, hein, se séparer de la chose pour pouvoir juger qu'il n'y a pas dans Eros. Donc Eros qui a tendance à lier, nous demande moins d'efforts que Thanatos, qui est que il faut se délier de l'objet pour pouvoir y revenir autrement. Et dans toute son analyse, dans Malaise, dans la civilisation, ce qu'il montre, parce qu'il est très engagé politiquement finalement, Freud, malgré ce que l'on veut dire, il est très engagé, et il montre comment cette cruauté de plus en plus, et on le voit hein, avec la Shoah, avec tous les génocides qu'il y a au XXe siècle, la pulsion de mort là œuvre par elle-même. Et lorsqu'il termine dans Malaise, dans la civilisation, Freud dit ceci: Eros et Thanatos, on ne sait pas quel sera leur destin. On ne sait pas. Et donc, là je crois qu'il faut, affronter le réel de ça pour pouvoir lier ça.
Michel
pour
Néron.
Pouvoir lier Eros et Thanatos.
Effectivement, on a fort à faire avec Eros et Thanatos, et on peut même essayer de prévenir cette intrication dangereuse. Je rappelle que la compagnie Clonaid, qui existe bien, propose de sélectionner et de stocker les cellules d'un enfant vivant à la requête d'une famille pour éviter d'avoir à en faire le deuil. Alors l'offre et la demande se conjoignent ici pour éliminer un fantasme. On est passé de l'assurance vie à l'assurance mort. Le clonage permettrait enfin, théoriquement, je précise tout de suite que je ne suis pas là pour me prononcer sur la validité technique des opérations de clonage, mais seulement pour évaluer les fantasmes que cela déclenche, et donc la jonction de la demande et de la proposition. Donc on peut éliminer le deuil possible d'un enfant à mourir en s'adressant à cette société qui va stocker ses gènes et qui vous met à l'abri de toute déception. De ce fait, le roman familial du névrotique devient le roman générationnel du génétique. Hein. Pour reprendre une phrase de Jürgen Habermas, on peut faire du shopping au supermarché du génétique. Mm-hmm. Voilà. C'est une façon extrême de sortir aussi de la psychanalyse.
Oui, oui, bien sûr.
Mais la psychanalyse fait qu'on a à entendre des choses qui... et des gens qui sont confrontés à ce genre de problème et à ce genre de technique.
Voilà. Alors cette manière aussi que vous avez aussi de penser la distinction entre donc pulsion de mort, pulsion de vie, mais aussi différents types de pulsion de mort, destructrice ou bien qu'il s'agit aussi de penser comme restauration, cette conversion, François Pommier aussi, vous l'évoquez me semble-t-il, quand vous dites qu'il faut que le rôle de l'analyste, hein, c'est de transformer le discours du patient en mythe, de convertir le dramatique en tragique pour permettre le transfert. Alors là, vous allez, si vous voulez, vous expliquer sur cette question. Retrouver la légende à partir de laquelle le discours délirant est prononcé, je vous cite.
Oui, ce que je veux dire, c'est que à certains moments, certains patients nous racontent des histoires absolument dramatiques sans que nous ayons pour autant, nous praticiens, cette sensation véritable du drame. Et il va falloir, en quelque sorte, transformer cette affaire en nous-mêmes pour que cette histoire devienne commune entre nous, en quelque sorte, et que cette tragédie, donc qui n'est plus seulement du drame, nous la partagions avec notre patient et nous travaillons. Je reprends un petit peu ce que disait tout à l'heure Sabine Procoris, que nous travaillons finalement côte à côte face à ces.
Mais je comprends bien votre distinction entre dramatique et tragique là. Qu'est-ce que ça veut dire que passer au tragique ?
Passer au tragique, c'est en quelque sorte théâtraliser. C'est vrai que la distinction, c'est vrai que souvent entre le drame et la tragédie, c'est très proche. J'ai un peu étiré l'affaire pour pouvoir expliquer quelque chose de l'ordre de ce que ressent le psychanalyste face à son patient. Comment est-ce que le psychanalyste peut reprendre ce que lui dit son patient en lui-même par rapport à sa propre histoire, pour que se joue quelque chose contre transférentiel.
Alors quand je vous lis François Pommier, je me dis voilà, on retrouve aussi dans cette idée d'empathie, on retrouve aussi certaines thèses autrefois de Lange ou Cooper avant de l'anti-psychiatrie, et en même temps voilà, il y a toujours ce balancement entre d'un côté cette nécessité d'empathie, mais et de l'autre côté la solitude assumée de l'analyste qui à la fois est dans, reprend en quelque sorte, retrouve l'originaire aussi et le destin quelque sorte de la névrose, mais en même temps voilà, elle doit rester lui-même. Est-ce que vous pouvez vous expliquer là-dessus? Et puis je pense que Michel Béraud.
Oui, j'insiste sur le fait que nous ne sommes pas dans l'accompagnement, puisqu'il s'agit tout de même de
Oui, par exemple, une fin de vie. Vous évoquiez tout à l'heure la situation de quelqu'un qui va mourir très prochainement.
Qui pose
le problème de votre
patient. J'ai pris le risque de parler de mes patients, en effet, peut-être à la différence de ce que disait tout à l'heure Michel Néraud, qui a préféré se rattacher à la culture. En même temps, j'ai déformé un petit peu les situations. Je dirais, on posait la question à McDougall une fois, de savoir, puisqu'elle parle beaucoup de ses patients, on les retrouve dans ses différents livres, on lui demandait comment est-ce que ça se passait avec ses patients, s'ils se retrouvaient dans cette affaire. Alors, moi, il arrive qu'ils se retrouvent effectivement, pas forcément, je modifie des éléments pour qu'ils ne soient pas trop reconnaissants.
Alors, revenons à votre situation. En quelque sorte, voilà, empathie, mais aussi solitude.
Oui, pardon, je dévie un peu. L'empathie, je me réfère beaucoup aux travaux de Ferenczi, en fait, fait donc de la psychanalyse véritablement une pulsation vivante, comme le disait Granoff. Donc, l'idée est quand même d'être suffisamment maternant très souvent, et d'être dans quelque chose de contenant par rapport au patient, sans pour autant empêcher, empêcher le fonctionnement de l'analyse elle-même et d'essayer de décrypter les éléments qui vont permettre au patient justement de rester en vie et de mener la vie jusqu'au bout. Encore une fois, il ne s'agit pas de l'accompagner à la mort, mais de lui permettre de vivre le mieux et le plus longtemps possible et le plus librement possible. C'est ce à quoi j'essaie de m'attacher.
Oui, Michel Néraud.
Oui, il y a une expression qui est très française et que les Anglais nous envient, bien qu'ils ne la comprennent pas, qui est celle d'hystérisation. Il faut hystériser un patient. Ça les choque beaucoup quand on dit ça. Mais c'est une façon de le rendre à la vie d'une certaine manière.
C'est-à-dire qu'il manifeste dans son corps, en quelque sorte,
oui, par exemple, des choses qui autrefois étaient muettes, si vous voulez. Il ne se rendait même pas compte de ses limites, ce qui est une chose très importante. Mais aussi, je voudrais revenir sur une autre forme d'assommoir, qui est une des manifestations de l'instinct de mort, c'est l'assommoir par le conformisme, qui est une manière d'endormir le patient et son analyste de façon assez sûre. L'homme caméléon, auquel je fais allusion, vous l'avez deviné, qui est Zelig, le meilleur patient de New York, finit par endormir complètement sa psychiatre de charme, qui tombe amoureuse de lui, et ils s'en vont traverser l'Atlantique sur le dos.
Rappeler pour nos auditeurs donc votre référence.
La référence est celle de Zelig de Woody Allen, qui est le conformisme absolu, c'est le meilleur patient de New York, ayant pris le modèle, c'est le modèle qui a pris le modèle pour modèle. Donc on ne s'en sort pas, c'est une manière de s'engluer dans l'analyse qui est une forme de l'instinct de mort, de la destruction générale, par le conformisme, c'est-à-dire l'absence de différence. Il n'y a plus de différence. Je cite seulement quelques avatars de cette de ce conformisme, qui est que Zelig devient immédiatement, en quelques secondes, gros, maigre, irlandais, chinois, psychiatre, écossais, rabbin, obèse, turfiste, patriote, aviateur, normal et même amoureux. Voilà. L'absence de limite a donc une limite, hein, qu'induit l'identification elle-même dans sa soumission aux apparences. C'est pour ça que j'ai choisi le cinéma, parce que le cinéma étant fait d'une manipulation de l'apparence, il s'ensuit que l'identification s'en trouve beaucoup mieux démontrée. Et Zelig en est une illustration parfaite que je vous recommande.
Alors, se méfier du conformisme, se méfier du conservatisme aussi, c'est tout le rôle de la psychanalyse. C'est le problème, parce que d'une certaine manière, on parle de la psychanalyse dans la société, de son rôle social. Et c'est ce qui vous intéresse aussi, aussi bien Sabine Procoris que Nicole Edith Thévenin. Cette question, oui, du risque du conservatisme de la psychanalyse. Nicole Edith Thévenin.
Je suis très sensible à ce qui vient d'être dit, parce qu'en fait, c'est ça le fond de la question, c'est l'anticonformisme de la psychanalyse, qui est d'autant plus à mettre en avant qu'aujourd'hui, on est dans le conformisme, et que dans la normalisation, hein, dans cette normopathie dont parlait Joyce McDougall. Et c'est pour ça que la psychanalyse requiert l'excès. C'est-à-dire, c'est pour ça, je reviens sur cette différence.
Vous parlez même des facteurs révolutionnaires de la psychanalyse, hein, vous les rappelez
Freud dit, la psychanalyse a suffisamment de facteurs révolutionnaires pour qu'un individu ne se range pas du côté de la réaction, ce qui est quand même étonnant. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que je pense que la psychanalyse a ce travail de la subversion du sujet, tel que Lacan en parlait, c'est-à-dire déplacer la manière dont le sujet est pris dans des signifiants maîtres, hein, dans cette normopathie, et qui fait que justement il va se ranger dans le troupeau. Hein. Et donc la psychanalyse est là pour déplacer, dénouer cette fixation, comme disait Sabine, pour redonner à l'individu justement sa part révolutionnaire, sa part de contestation, et qui fait que là travaille la pulsion de mort positive dont vous parliez, que vous évoquiez. C'est-à-dire il y a la pulsion de mort négative telle que Michel Néraud vient d'en parler, ou François Poirier, mais c'est-à-dire là où on sent que on croule sous la norme. C'est de l'instinct, c'est de la pulsion de mort, c'est de la mort mortifère. Mais il y a une mort vivante, et il faut l'entendre celle-là. Il y a une pulsion de mort qui fait corps avec la rage de vivre, et qui fait que l'on détruit. Alors bien sûr, cette destruction peut prendre des formes où c'est la destruction de toute vie, mais c'est peut être aussi l'ultime manière qu'on a de dire non. Non à ce qui nous écrase, non à ce qui nous contraint, non à ce qui voudrait nous rendre nous remettre dans le troupeau, hein, dans le bien pensant, dans l'adaptation.
Oui. Hein. Alors, Céline Procoris, vous avez beaucoup travaillé, d'une certaine manière, pas forcément en affichant le côté révolution de la psychanalyse, mais à, en quelque sorte, sortir la psychanalyse de ce qui pourrait être une forme de conservatisme. Vous l'évoquez notamment dans la question des genres. Vous évoquez, il y a un texte qui s'appelle Malaise dans la sexuation. Tout ce qui concerne la parenté, c'est pour ça qu'on revient malgré tout un petit peu à la question qu'on avait évoquée tout à l'heure sur la définition des rôles. C'est intéressant de voir que chez vous, il y a aussi une théorisation qui vient de ce que la psychanalyse n'est pas simplement, comment dirais-je, ne vient pas simplement gérer les problèmes, mais qu'elle est source d'effets, vous dites.
Oui. Hein,
il y a un effet de la psychanalyse, un effet social, pas simplement un effet, bien sûr, sur les patients, mais un effet social, parce que c'est un travail aussi sur les représentations. Il y a à la fois l'intime, mais il y a aussi le politique, comme Nicole Edith Thévenin vient de le rappeler.
Oui, enfin, tout ça est assez articulé pour moi, parce que en fait, ce qui m'intéresse, c'est la manière dont le collectif, je dirais même pas le politique, enfin disons le collectif, le monde commun, en fait, se métabolise, se traduit avec toutes sortes de ratés, de transformations, de déformations, d'impasses dans l'intimité d'un sujet. Et j'aime bien le terme de Lacan qui parle de l'extime, qui dit bien que, au fond, ce qu'on appelle l'intime, ce serait quelque chose comme du dehors replié d'une certaine manière avec certains plis. Bon. D'ailleurs, pour ça, je voudrais juste introduire une petite nuance sur le terme d'empathie, parce que j'ai trouvé, en fait, c'est pas de mon cru, j'ai trouvé ça dans un roman formidable de Russell Banks qui s'appelle American Darling, où l'héroïne distingue empathie et sympathie, en disant que dans l'empathie, en fait, d'une certaine manière, on écrase
l'autre, parce qu'on se met dans sa peau, mmh. tandis que dans la sympathie, on souffre avec lui d'une certaine manière, on ressent avec lui, mais en même temps, sans que soit abolie la distance qui nous sépare, et qui fait que si mon patient qui va mourir dans 3 mois du sida, comme ça, bon, je pense à une situation particulière, il n'est pas dans la même situation que moi, et je peux pas faire comme si j'étais dans la même situation que lui.
Ça se partage,
alors,
la souffrance.
Ça se partage. Moi, je me souviens que j'avais, par exemple, un moment. Bien sûr que ça se partage, mais on peut pas prendre la place de l'autre. Je crois, on peut pas être à sa place. Il y a une sorte de solitude au fond de chacun qui me semble qu'on ne peut pas nier. Je crois, ni dans quelques rapports humains que ce soit, ni dans le rapport analytique. Alors, pour la question des normes, justement, pour y revenir, ce que je citais tout à l'heure sur la vie sociale qui s'emploie à congeler l'intelligence qui nous permet de la penser, décongeler, c'est effectivement se mettre à distance, bien sûr. Et je rapproche ça de ce que dit Canetti sur le masque dans Masse et Puissance, quand à un moment donné, il dit que le potentat livre une lutte incessante aux métamorphoses incontrôlables. Je crois que ce qui est difficile, c'est de s'approcher. Mais au fond, ce que c'est qu'une métamorphose singulière ou collective, parce que ça nous met en relation avec ces fissures ou ces lignes de fracture ou ces fragilités qu'on ne cesse d'essayer de colmater, pour créer quelque chose, comme dit Marie Douglas, un semblant d'ordre. Donc, elle parle du conformiste, d'ailleurs, Marie Douglas, très bien, quand elle dit que quand on déclare un phénomène dangereux, on atteint par là un plus haut degré de conformisme.
Mais Samine Frégoris, là, on a l'impression que vous êtes tous d'accord sur la manière d'aborder les normes, de lutter contre le conformisme, mais je me pose la question, c'est-à-dire que face aux situations extrêmes, aux radicalités aussi, à cette extériorisation, hystérisation, le rôle de la psychanalyse est-il de sympathiser, donc sinon d'être en empathie, est-il aussi de rappeler les normes, de rappeler les limites, de rappeler qu'il y a aussi un ordre? Je ne suis pas sûr que là tous les psychanalystes soient d'accord sur cette question-là, c'est-à-dire est-ce que la psychanalyse est normative? Non, bien sûr, on dira, mais en même temps, voilà, elle a besoin aussi quand même de rappeler un certain nombre de normes. On l'entend aussi dans vos discours, parce que là, on est en train d'arraser un peu les différences, mais je les entends un peu.
Samine Frégoris. Je voulais terminer sur cette question des normes. Je crois qu'il faut, il y a deux sens de ce terme. Il y a un sens, la norme comme standard, et la norme, c'est pas juste les limites. Hein. C'est la norme comme standard, les normes européennes pour le camembert ou je sais pas quoi. Bon, et puis il y a la norme au sens de Canguilhem, Foucault, et finalement très freudien, c'est-à-dire cette capacité de produire dans des situations de déstabilisation des nouvelles normes.
Oui, mais enfin, il y a surtout l'usage de la norme qui vient distinguer le normal et la normale.
Mais je pense que la psychanalyse, elle a travaillé justement sur cette capacité de normativité qui n'est pas que singulière, qui est dans l'articulation du singulier et du collectif. C'est comme le langage. Il faut bien qu'on parle un langage commun, grammatical. Mais s'il n'y avait pas de norme, finalement, il n'y avait que la norme au sens du standard, on parlerait encore latin.
Invention des normes ou bien rappel des normes, Michel Néraud.
Seulement de gérer les névroses, comme il avait été dit, ou l'instinct de mort, comme on a encore dit mieux. Il s'agit essentiellement pour la psychanalyse de l'interpréter, quand on le peut. Justement, quand ça va vraiment très mal, on ne peut plus l'interpréter, mais on peut se situer, on peut manipuler, on peut prendre des contre-attitudes, mais on se trouve là dans une espèce de domaine politique et stratégique qui se rapproche davantage du jeu des échecs que de la psychanalyse, dont le fondement reste l'interprétation. Je rappelle aussi que la psychanalyse se passe, Freud explicitement le dit, de vision du monde. Nous n'avons pas besoin de vision du monde, nous ne prenons que des trains en marche. Par conséquent, on se débrouille avec ce qu'on a. On ne le propose pas d'abord. Les gens, ils se débrouillent assez bien eux-mêmes pour s'empêtrer dans les normes du conformisme. Si on peut leur révéler une vérité sur eux-mêmes, c'est déjà une libéralisation. Il se trouve que de temps à autre, on est amené aussi à rendre les gens capables, de nouveau capables, d'être responsables de quelque chose. C'est une liberté qu'ils n'imaginaient pas. La liberté ne consiste pas forcément à foutre tout en l'air, mais par exemple à retrouver sa place. Et dans ce sens, on pourrait dire que la psychanalyse est normative. Si elle est normative dans ce sens-là, je suis pour. C'est-à-dire de retrouver la place qu'on doit occuper. Bon, ça ne va pas plus loin que ça, mais elle est révolutionnaire en soi. En tout cas, elle suscite toujours les mêmes résistances. On a beau changer d'époque, la psychanalyse choque toujours. Elle rencontre une résistance féroce parce qu'elle remet en question ce qu'il y a de plus secret. Je rappellerai un mot, si vous le voulez bien, que m'a évoqué tout à l'heure Sabine Procoris à propos de Heinrich Unheimlich. C'est Freud se penche beaucoup sur cette question.
L'inquiétante étrangeté.
Unheimlich, c'est l'inquiétante étrangeté, mais dans Unheimlich, il y a Heimlich, c'est-à-dire l'intime. C'est un mot qui a tourné de sens, qui est passé de home, si vous voulez, l'intime, au secret.
Oui, Heimat.
Ah, c'est ça. Et donc, j'ai retrouvé l'étymologie étrange dans Gestapo. Geheimne Stadtpolizei. C'est-à-dire la double étrange insinuation du Heimlich et du Unheimlich secret. Voilà ce que je voulais dire sur l'inquiétante étrangeté qui peut nous apparaître sous des traits dont Freud dit qu'ils sont toujours connus quelque part.
François Pommier.
Oui, juste pour dire, je suis pas très d'accord avec l'idée que la psychanalyse serait normative. Hein. Je trouve que c'est plutôt le contraire qu'elle est. Je rejoins tout à fait ce que dit Michel Leroux là, parce que au contraire, l'idée c'est de permettre au sujet d'être le plus libre possible par rapport à lui-même. On est tout à fait en dehors. Le conformisme n'a rien à voir avec justement la psychanalyse. C'est tout le contraire.
Mais hein, le rappel des places, le rappel de chacun.
Le rappel des places, mais là, à ce moment-là, on est dans la singularité. Et il s'agit de faire en sorte que le sujet se trouve à sa place lui-même par rapport aux normes. Et en ce sens, d'ailleurs, vous parliez tout à l'heure des antipsychiatres. En effet, c'est très intéressant du point de vue de ce qu'ils ont pu dire, d'un point de vue théorique, parce que ça n'a pas vraiment marché dans la pratique. Mais du point de vue théorique, c'est tout à fait intéressant de voir la manière dont des gens comme Cooper et Lang ont pu travailler la question de la folie par rapport à la société. Aujourd'hui, et c'est vraiment d'ailleurs un problème de société très actuel aujourd'hui.
Ouais. Nicolas Dittevenin, alors chacun à sa place, déplacement, normativité, inventer des normes.
Non, le rôle de la psychanalyse n'est pas là pour, en effet, rappeler quoi que ce soit, imposer quoi que ce soit. Elle est là pour entendre, entendre une souffrance.
Oui. Il y a un mot de Sabine Procoris que je trouve très très joli qui dit le faire psychanalytique, c'est un bricolage intempestif.
Oui, c'est très joli. Oui, je suis absolument.
Vous êtes d'accord sur cette expression tous les quatre?
Tout à fait. Et bon, l'intempestif, le bricolage intempestif a des effets extraordinaires parce qu'en effet, il vient subvertir l'ordre dans lequel est pris le sujet et lui faire penser sa place, mais qui peut être complètement déplacée.
Je vous remercie et rappelle vos ouvrages qui viennent juste de paraître. Michel Leroux, Alter Ego, aux éditions de l'Olivier. François Pommier, L'extrême en psychanalyse, aux éditions Campagne Première. Sabine Procoris, La psychanalyse excentrée, au PUF. Et Nicole Edith Thévenin, Le prince et l'hypocrite, éthique politique et pulsion de mort, chez Sileps.